RCF.
Chers auditeurs des Neveux de René, bonjour. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la découverte d'un philosophe majeur du 19e siècle. J'ai nommé Auguste Comte, né en 1798 à Montpellier, mort en 1857 à Paris. Auguste Comte est le philosophe dont la doctrine s'appelle le positivisme. Alors ici, positif a un sens tout à fait original qui est précisé dans la pensée d'Auguste Comte, dans ce philosophe. Positif s'explique par une opposition, une certaine opposition à métaphysique. Donc en fait, la pensée d'Auguste Comte s'inscrit dans une longue tradition de pensée philosophique. Elle essaye de rompre avec cette tradition. Et l'émission d'aujourd'hui sera consacrée à donner quelques éclairages, qui seront évidemment très partiels, sur cette pensée extrêmement riche. Alors, l'émission d'aujourd'hui est organisée en deux temps. Premièrement, nous allons lire un court extrait d'Auguste Comte et son rapport à Descartes, à René Descartes, celui dont nous empruntons le prénom pour ces émissions des Neveux de René. Nous ne développerons pas d'éléments biographiques sur Auguste Comte, bien qu'évidemment sa vie soit très riche et très intéressante, mais afin d'aller droit au but, je vous propose simplement de plonger directement dans sa pensée. Il n'y a en effet, à mon avis, pas de meilleur moyen de découvrir un auteur que d'aller directement lire ses écrits. Et il vaut mieux toujours lire une page ou deux d'un auteur plutôt qu'une longue biographie sur lui, qui sera peut-être plus globale, donnera une vue plus générale d'un auteur, mais ne met pas en contact avec un auteur. Or, philosopher, c'est être en contact avec des questions, avec et établir un dialogue. Alors, le but de cette émission que nous faisons ensemble depuis plusieurs années déjà, c'est évidemment de ne pas se laisser impressionner par la stature des philosophes. C'est-à-dire que les écrits des philosophes sont destinés à être lus, et même si on ne connaît pas bien la pensée d'un auteur, eh ben il faut le prendre à un endroit donné, quel qu'il soit, et se mettre à établir un dialogue. Donc, ça, ce sera la première partie de l'émission. Et dans la seconde partie, je vous propose un entretien qui a été fait sur le vif à Malakoff, dans la région parisienne, en plein air, avec un ami qui s'appelle Tonatiu Uzeche Sandoval et que j'ai rencontré comme ça avant qu'il aille à une séance d'arts martiaux et on s'est entretenu sur Auguste Comte. Donc l'enregistrement, la qualité sonore n'est pas parfaite et je vous prie de nous excuser pour les petits défauts sonores qui vont ponctuer cet entretien, mais cela donnera aussi une façon d'accéder à Auguste Comte et découvrir les éléments saillants de sa pensée. Nous espérons bien sûr que ce n'est qu'un début et que nous continuerons à travailler les textes d'Auguste Comte dans cette émission des Neveux de René. En attendant, bien sûr, le conseil premier serait que les auditrices et les auditeurs aillent découvrir les textes de ce grand penseur.
Chemin de pensée sur RCF.
Alors, la première lecture que je vous propose de faire est extraite des considérations générales sur l'étude positive des fonctions intellectuelles et morales ou cérébrales. Ce texte est tiré du début de la 45e leçon du cours de philosophie positive écrite du 24 au 31 décembre 1837. Il est tiré des pages 530 à 532 de l'édition établie par Émile Littré. Alors, il faut savoir que Auguste Comte est auteur de deux œuvres monumentales, le cours de philosophie positive et le système de philosophie positive. Voilà. Alors, donc cet extrait du cours commence ainsi. Sans remonter dans l'histoire générale de l'esprit humain, au-delà de la grande époque de Descartes, si hautement caractérisé par la première tentative directe pour la formation d'un système complet de philosophie positive, on doit remarquer que ce puissant rénovateur, quelle que fût son audacieuse énergie, n'avait pu lui-même s'élever assez au-dessus de son siècle pour concevoir sa méthode fondamentale dans son entière extension logique, en osant y assujettir aussi, du moins en principe, la partie de la physiologie qui se rapporte aux phénomènes intellectuels et moraux. En analysant le développement graduel de ses principales conceptions philosophiques, d'après la hiérarchie rationnelle que j'ai établie entre les diverses classes essentielles des phénomènes naturels, il est aisé de reconnaître, en effet, que telle fut, en général, la véritable barrière devant laquelle vint s'éteindre l'essor incomplet de sa réformation projetée. Après avoir, comme il le devait, institué d'abord une vaste hypothèse mécanique sur la théorie fondamentale des phénomènes les plus simples et les plus universels, il étendit successivement le même esprit philosophique aux différentes notions élémentaires relatives au monde inorganique et y subordonna finalement aussi l'étude des principales fonctions physiques de l'organisme animal. Mais son impulsion réformatrice s'arrêta brusquement en arrivant aux fonctions affectives et intellectuelles, dont il constitua formellement l'étude spéciale en apanage exclusif de la philosophie métaphysico-théologique, à laquelle il s'efforça vainement de donner, sous ce rapport, une sorte de vie nouvelle, quoique par une action plus efficace, parce qu'elle était progressive, il en eut déjà sapé de manière irrévocable les premiers fondements scientifiques.
Chemin de pensée avec les neveux de René.
Alors dans ce texte, Auguste Comte nous présente Descartes comme un grand réformateur, comme celui qui s'est mis en route pour l'établissement de, deux points ouvrez les guillemets, un système complet de philosophie positive. Autrement dit, positif chez Auguste Comte s'oppose à ce qu'il va dire plus tard à métaphysique et théologique. Donc, positif chez Auguste Comte, cela signifie être sûr de ce qu'on dit. C'est vraiment la science qui va nous rendre certaines des phénomènes, de ce que nous observons et de la façon dont nous allons construire une société, on ne dira pas parfaite, mais qui ne sera plus soumise aux tensions qui ont été les génératrices de l'histoire de l'humanité. Donc, Descartes, nous dit-il, apporte une hypothèse mécanique dans sa théorie fondamentale. Nous en avons déjà parlé dans Les Neveux de René. Donc, il reconnaît que cette hypothèse-là, elle a quelque chose de fort, c'est-à-dire elle va réformer la façon de penser de l'humanité. Ce n'est pas simplement un être humain qui serait là et qui va dire « je vois le monde à travers une hypothèse mécanique », mais c'est un fondement de la théorie. Voilà. Et il nous dit, voilà, à partir de ce monde inorganique, le mot est important, Descartes va fonder les fonctions physiques de l'organisme animal. Mais il s'arrête, à un moment donné, aux fonctions affectives et intellectuelles. Autrement dit, Descartes n'est pas suffisamment audacieux ou suffisamment armé pour dépasser son siècle et aller jusqu'à ce que lui, Auguste Comte, va affronter, c'est-à-dire les fonctions affectives et intellectuelles de l'être humain. Voilà. Et donc, on voit qu'Auguste Comte se place comme celui qui va achever la révolution de la pensée qui a été instituée par Descartes. Voilà. Alors, j'ai bien conscience qu'à travers ce texte et ses indications, nous ne faisons que donner des indications extrêmement sommaires de quelque chose qui est riche, mais encore une fois, le but de cette émission de philosophie n'est pas de clore les choses, mais de les ouvrir. Voilà. Donc, nous invitons chacun, homme et femme, à aller découvrir ces textes d'Auguste Comte, qui sont des textes passionnant. Je rappelle, ces deux œuvres majeures sont le cours de philosophie positive et le système de philosophie positive. Il y a un livre qui s'appelle le catéchisme positiviste qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies et qui peut donner un premier contact avec cette pensée extrêmement riche, extrêmement stimulante d'Auguste Comte. Voilà, je vous laisse maintenant pour cet entretien avec Tonatius et Sandoval, pour une discussion notamment autour de la vision d'Auguste Comte de l'éducation, éducation bien sûr des enfants, mais éducation générale de l'être humain. Je dois aussi dire que cette discussion que nous avons autour de Descartes et Auguste Comte peut être intéressante pour explorer les tendances de notre époque. On parle par exemple beaucoup de la question du transhumanisme, de l'être humain amélioré et la façon dont il se modifierait lui-même à partir des bases techno-scientifiques. Nous aurons l'occasion dans les prochaines émissions des Neveux de René de rediscuter de ces questions-là, et notamment à travers les textes d'un auteur qui est Olivier Ray et que nous allons bientôt accueillir à Nancy, notamment le 11 décembre. Donc, pour les personnes qui sont à Nancy, de prendre date pour le 11 décembre 2008 pour l'accueil d'Olivier Ray. La rencontre est prévue à 20h dans la salle des universités, salle d'honneur des universités, cours Carnot. Merci à toutes et à tous et je vous laisse en compagnie de cet entretien.
Chemin de pensée sur RCF.
Alors, Tonatio, est-ce que vous voulez bien dire quel a été votre parcours et comment vous êtes arrivé, en deux mots, à vous intéresser à Auguste Comte ?
Merci, Nazim. Bien, je suis né en Colombie. J'ai obtenu une bourse d'études pour venir faire des classes préparatoires en France. J'ai rencontré la pensée de Comte en 2000. Donc, cela fait 18 ans que je fréquente cet auteur. Et ce qui est surprenant, c'est que même s'il est souvent décrié, et même si parfois on me demande pourquoi je travaille sur cet auteur, je ne me suis jamais lassé de le travailler. Et il me semble qu'une des raisons principales pour cela, c'est que Auguste Comte prend très au sérieux le thème de l'éducation, et que pour lui, l'éducation est l'acte politique par excellence, en tout cas l'acte politique de ce qu'il nomme l'acte politique de ce qu'il nomme les pouvoirs spirituels. Pour Auguste Comte, la véritable division politique, la façon de gouverner une société, est double. Il y a d'un côté le pouvoir qu'il appelle temporel, qui concerne, il nous dit, les actes, et de l'autre côté, il y a le pouvoir spirituel, qui, lui, il conserve la volonté. Cette division s'enracine dans une tradition politique occidentale qui remonte pour le moins jusqu'à Platon. Puisque cette notion d'autorité morale ou d'autorité spirituelle est d'origine platonicienne. Ensuite, elle a été systématisée au Moyen-Âge avec la doctrine de deux épées. C'est-à-dire, il y a d'un côté la papauté et de l'autre côté le pouvoir impérial. Et c'est cette tradition-là que Comte renouvelle de fond en comble au XIXe siècle.
Merci. Alors, la référence à Platon, elle nous intéresse évidemment en premier chef, d'autant qu'on s'est déjà plongé un petit peu dans ces questions, on les a abordées dans l'émission de radio. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être comment il aborde cette question de la paideia chez Platon, et donc c'est ce mot qu'on entend dans pédagogie aussi. Quels sont les écrits de Platon qu'il cite? Est-ce qu'il en cite certains plutôt que d'autres, ou est-ce que c'est plutôt un héritage global qu'il va reprendre de Platon?
Alors il faut savoir que Auguste Comte a une piètre idée, une piètre opinion de Platon, si le philosophe qui compte pour lui dans l'Antiquité, c'est Aristote. Et il se veut l'héritier d'Aristote dans le caractère encyclopédique que possède la philosophie d'Aristote, puisque elle étudie, elle peut très bien aller comme selon le classement habituel de la physique jusqu'à la métaphysique. Et c'est ce caractère global, holistique, on pourrait presque dire, qui intéresse Auguste Comte. Et d'ailleurs, dans sa pensée de l'éducation, c'est une pensée qui se veut globale. Si nous devons quelque chose à Auguste Comte, c'est d'avoir une partie d'enseignement scientifique dans l'éducation. L'idée d'Auguste Comte, c'est de compléter les humanités par l'étude des sciences. Ou d'une certaine manière, c'est de élargir les humanités par l'étude des sciences. Autrement dit, il y a dans l'idée de Comte que devenir pleinement un être humain nécessite une introduction aux différentes sciences, pas à une science, mais vraiment à l'ensemble des sciences, en allant d'abord des mathématiques pour arriver jusqu'à la science qu'il considère la plus complexe, d'abord la sociologie, ensuite la morale.
Merci. Alors, il faut savoir évidemment que Comte est l'inventeur même du mot sociologie. Hein. Mais ce que je retiens de saillant dans ce que vous venez de dire, Tonatiuh, c'est il y a quelque chose de l'ordre de l'unité, c'est-à-dire que Auguste Comte ne pense donc jamais les sciences contre les humanités. En fait, la division qu'on a de nos jours, sciences dures et sciences humaines, n'a peut-être pas de sens pour lui. Et puis, que dirait-il s'il voyait qu'il y a des facs de sciences et des facs de lettres et sciences humaines ?
Alors, le premier point, c'est par rapport au mot sociologie. Donc, il n'est pas de Comte, mais bon, ce qui est l'essentiel, c'est que c'est lui qui l'a systématisé et qui a transformé ce mot en une discipline et sur la société. Donc, ça, c'est indéniable. En revanche, maintenant, sur la question entre division sciences humaines et sciences dures, c'est une bonne question. C'est quelque chose effectivement étranger à l'esprit de Comte, puisque dans un passage, il dit la seule science qui compte, c'est la science de l'humanité. Or, et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour connaître l'humanité, il est important de passer par les mathématiques, de passer par l'astronomie, de passer par la chimie, plutôt par la physique d'abord, et ensuite par la chimie, qui nous permettent de connaître le milieu dans lequel l'humanité est plongée. Et ensuite, il est important de connaître le milieu vivant, puisque nous sommes des êtres vivants, et aussi par le fait que le vivant, d'après Comte, nous enseigne la synthèse. C'est-à-dire, il nous enseigne à penser les parties à partir du tout, et pas le contraire. Et enfin, donc la sociologie.
On a eu la chance de visiter avec vous aussi la maison Auguste Comte, qui est un lieu remarquable, qui se trouve à Paris, donc 10 rue Monsieur le Prince. On invite évidemment tous nos auditeurs à tâcher de s'y rendre. Peut-être première chose, vous nous direz comment on peut visiter cette maison Auguste Comte si on est un provincial qui arrive à Paris. C'est une première question. Deuxième question, je me souviens avoir vu un tableau dans la maison d'Auguste Comte. Donc ça veut dire que c'était un philosophe qui passait son temps à enseigner, et si je me trompe pas, il faisait des cours d'astronomie populaire, c'est ça ? Vous pouvez nous en dire plus sur ces différents points ?
Alors la première chose, c'est que la maison d'Auguste Comte, effectivement, est un appartement. C'est un lieu qui mérite d'être connu, puisque ça, premièrement, cela permet de se rendre compte dans quelles conditions habitait quelqu'un pas aisé, puisqu'il n'a jamais été aisé, mais un travailleur intellectuel, pour le dire, un professeur de l'époque, pouvait se permettre, donc avec pas mal de privations, de vivre dans ce cadre-là. Alors le cadre, vous verrez, c'est, je ne sais pas combien de mètres carrés cela peut faire, je pense qu'il doit avoir environ 200 mètres carrés de surface. Ensuite, pour visiter, c'est très simple, aller sur le site de la maison Et vous verrez, il y a des visites qui sont réservées tous les mercredis. Vous pouvez visiter, sauf erreur, à partir de 14h. Et puis, il y a d'autres visites qui sont organisées. C'est vraiment un service qui est très ouvert et la personne qui s'en occupe est très, très compétente. Ensuite, par rapport au cours d'astronomie populaire. Alors, c'est un cours qu'il a donné, pas chez lui, donc chez lui, il faisait d'autres cours, mais il a donné ses cours dans... sauf erreur, à la mairie du 3e arrondissement, donc ce n'est plus exactement cet endroit-là, mais bon, c'était à la mairie du 3e arrondissement de cette époque-là, et il faisait des cours pour notamment pour les prolétaires. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'il pensait que ce qui convenait à des gens qui voulaient se former, qui avaient soif des connaissances, ce n'était pas de leur donner des petites recettes, ce n'était pas de leur donner les dernières nouveautés de la technique, c'était de les instruire à un savoir plurimillénaire dont ils considéraient qu'une systématisation était déjà possible. Et cela parce qu'il estimait que si on avait les rudiments, et je parle bien, il s'agit de rudiments, si on avait les bases de l'astronomie, on ne pouvait plus continuer à penser de manière théologique.
Alors, je vais vous poser deux questions qu'il faudra déployer à votre guise, hein, que vous pourrez déployer à votre guise. Quand vous dites penser de manière théologique, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement les trois étapes de la pensée, hein, selon Auguste Comte? Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est un thème qui m'intéresse, c'est Auguste Comte et la musique. Voilà. Comment la musique prend place dans l'œuvre, le travail, la pensée d'Auguste Comte?
Je vais peut-être... Par rapport à la question de la théologie, alors effectivement, il y a chez Comte l'idée que toutes nos conceptions sont initialement théologiques, c'est-à-dire nous essayons d'expliquer les phénomènes par l'intervention d'une volonté divine. Ensuite, il y a l'idée que c'est dans l'ordre de la nature, avec un N majuscule. Et après, on n'essaye plus de trouver la cause, on essaye seulement de regarder le pourquoi. Dans mon interprétation de cette loi, j'essaye donc de la voir autrement. Alors à mon sens, ce que Comte nous invite à faire, c'est qu'il est important de voir que les aboutissements des sciences sont le résultat d'un cheminement. Et que ces cheminements, il ne peut pas se faire sans hypothèse ni sans erreur. Et que, c'est ça l'idée de Comte, il faut être théologien lorsqu'on est enfant pour ne pas l'être quand on est adulte. Il faut être à un moment donné, penser à un moment donné comme un enfant qui attribue ou qui s'attribue à lui-même des pouvoirs qu'il n'a pas, pour prendre la discipline nécessaire aux observations et au travail intellectuel. Donc ça, c'est un point. C'est vrai qu'il y a chez Comte l'idée que l'esprit théologique est un esprit qui doit être dépassé. Mais il doit être dépassé comme quelque chose qui est obsolescent, qui est obsolète. C'est-à-dire, on n'en a plus besoin.
Oui.
C'est ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre la loi des trois états. Donc on peut la comprendre d'une manière polémique, c'est-à-dire c'est la science contre la pensée du mystère. Mais il y a une autre façon de la penser, c'est une pensée qui va dans le sens, on n'a plus besoin d'être dans ces illusions, on n'a plus besoin de croire qu'il y a une vie éternelle pour nous intéresser aux vivants. Ça c'est par rapport à ce point. Le deuxième point, c'est concernant le thème de la musique. La musique joue pour Comte un rôle central dans l'éducation. Et cela justement parce que nous ne sommes pas que des êtres intellectuels. Comte réfute des réductions de l'être humain à un être intellectuel qui dit est le propre de la pensée économiste. Pour Comte, nous sommes d'abord des passions. Nous sommes d'abord des affects. Or, la discipline des affects ne peut pas se faire de manière intellectuelle. Elle doit se faire par le biais des affects. Et ce biais des affects, c'est la musique qui le joue. Après, une fois que cette discipline-là est mise en place, l'intellect peut jouer un rôle. Donc c'est dans l'idée que l'être humain est complet, c'est-à-dire il est acte, sentiment et pensée.
Eh bien, Tonatiuh, merci beaucoup pour cet entretien fait sur un banc à Malakoff dans la région parisienne. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et puis j'espère qu'on aura l'occasion de continuer cette discussion avec vous sur Auguste Comte qui est extrêmement riche. Avant de quitter nos auditeurs, simplement une question un peu rituelle. Pour quelqu'un qui n'a jamais lu Auguste Comte, que recommandez-vous comme lecture et comment aborder cet auteur? Y a-t-il des textes par lesquels il faudrait commencer?
Alors, comme dans le cas de Comte ou dans le cas de tous les philosophes, les œuvres les plus parlantes et percutantes, ce sont les œuvres de jeunesse. Alors, allez voir le texte de jeunesse de Comte, à savoir le texte soit sur le pouvoir spirituel, soit le texte très célèbre sur... la réorganisation, sur le texte sur comment réorganiser la société européenne, texte de 1822-1824. Ces textes-là, c'est la meilleure introduction possible.
Très bien, ben merci beaucoup Tonatiuh, et puis j'espère à très bientôt.
Merci Nazim.